africain.
Décryptage, Marie Casadebé.
Alberto Fujimori a quitté vendredi la clinique dans laquelle il était hospitalisé depuis une douzaine de jours. Il l'a quitté en homme libre, et ce, malgré sa condamnation en 2007 à 25 ans de prison. L'ex-président péruvien, âgé de 79 ans, bénéficie d'une grâce présidentielle qui fait scandale. Les familles des victimes d'Alberto Fujimori ont déposé un recours.
C'est lamentable. 25 ans après la disparition de mon frère, cette grâce rouvre les plaies et heurte notre dignité. Il faut se rappeler qui est vraiment Alberto Fujimori et ce qu'il représente dans notre pays.
Depuis l'annonce de cette grâce, l'actuel président Pedro Pablo Kuczynski se retrouve plongé dans une crise politique avec des démissions en cascade et des accusations de manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Alors comment expliquer son geste? Pourquoi divise-t-il autant les Péruviens? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Lycelle Quiroz-Pérez.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, spécialiste du Pérou. Alberto Fujimori a donc été gracié après avoir passé 10 ans en détention, 10 ans sur une peine de 25 au total. Il avait été condamné, je disais, en 2007 pour corruption et crimes contre l'humanité. De quoi Alberto Fujimori a été reconnu coupable à l'époque, pour qu'on sache bien un peu de qui on parle ce soir?
Merci. Alors, Alberto Fujimori a été reconnu coupable de crimes essentiellement, enfin, il y a deux chefs d'accusation, il y a d'un côté la corruption et de l'autre, hein, ces crimes contre l'humanité. En particulier deux affaires en fait qui ont eu lieu, l'une en 1991 et l'autre en 1992. Donc il y a eu deux massacres coordonnées, dans un contexte en fait de répression de des groupes terroristes. Hein, enfin, c'était dans cette ligne-là. Et après, dans les années 90, il y a eu une sorte de diffusion et de multiplication de la violence, mais de la part de l'État. Mmh. Et donc un groupe de paramilitaires qui s'appelait le groupe Colina, directement dirigé par Fujimori et son bras droit qui était Vladimiro Montesinos, ont organisé donc ces actions très violentes et qui ont par exemple, dans le premier cas, terminé avec l'assassinat de 15 personnes, dont un enfant de 8 ans, en 91, à Barrios Altos, hein, c'est ce massacre de Barrios Altos. Alors c'était une fête populaire, par exemple, là, où simplement la communauté se réunissait pour rassembler des fonds, pour construire en fait un service d'égout. Eh bien, ce groupe est intervenu à assassiner ces 15 personnes. Le deuxième cas, c'est un cas où des étudiants, 9 étudiants d'une université, La Cantuta, et un professeur ont été aussi assassinés par ce même groupe, toujours avec cette idée que c'était des possibles terroristes, alors que le procès a manifestement vu que ce n'était pas du tout le cas.
Vous le disiez, hein, c'était une époque de lutte contre des groupes terroristes, et notamment le plus connu, le Sentier Lumineux. Il faut peut-être rappeler un petit peu les ravages de ce conflit à l'époque, énormément de victimes de ce groupe.
Oui, alors, la commission de la vérité et la réconciliation, qui est une commission organisée après, hein, en 2000, après toute cette période, a estimé qu'il y a eu plus de 69 000 victimes, hein, entre 1980 et 2000, dont une très grande majorité d'Indiens. À peu près 75% de ces victimes, de ces 69 000, étaient des personnes qui parlaient uniquement le quechua, donc qui est la langue autochtone la plus importante, une des plus importantes parlées au Pérou. Donc c'était des Indiens, c'était des communautés vraiment très pauvres, andines, hein, des Andes. Et de ces victimes, en fait, ce conflit, une moitié, à peu près 46%, ont été victimes directes de ce groupe, cette guérilla marxiste-léniniste-maoïste, le Sentier Lumineux, hein, qui donc une guérilla qui a dérivé, qui est devenu un groupe terroriste et qui a donc causé ces milliers de morts. Mais d'un autre côté, il y a aussi eu l'action de l'État, Enfin, l'État a aussi, et notamment dans l'ère Fujimori, était responsable également de pas mal de crimes.
Alberto Fujimori, donc condamné hein, pour des crimes, vous nous l'avez expliqué, des massacres dans le cadre de cette lutte contre ces groupes terroristes. Il était aussi accusé d'avoir mené un auto-coup d'État. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser aussi le régime d'Alberto
Absolument.
Fujimori qui s'est durci au
Absolument.
Fur et à mesure de ces 10 années?
Exactement. Alors, Fujimori a été élu en 1990. D'ailleurs, il était face à le prix Nobel, l'écrivain... Mario Vargas Llosa a prix Nobel de littérature et il a très rapidement dissous le Congrès en 1992 et il a instauré un régime très autoritaire à partir de là. En fait, la dissolution du Parlement, bon, il a installé finalement un Parlement très favorable, qui était totalement acquis à sa cause. Il a rédigé une nouvelle constitution, il a réorganisé vraiment le régime. Alors, donc, certains parlent et on dit aujourd'hui plutôt qu'il s'agissait d'une dictature, dans la mesure où vraiment, il n'y a pas eu de respect hein, des règles démocratiques de l'époque. Et surtout, il s'est caractérisé d'un côté par ces actions extrêmement violentes, hein, d'un autoritarisme généralisé, et puis par un très très important système de corruption. Hein, très très important qui a été dévoilé quelques années après.
Alors le 25 décembre dernier, c'était au lendemain de l'annonce de sa grâce par le président actuel Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori publiait sur les réseaux sociaux une vidéo réalisée sur son lit d'hôpital, une vidéo d'excuses.
Je suis conscient que les résultats de mon gouvernement ont été bien reçus par une partie de la population. Mais je reconnais aussi que j'ai déçu d'autres compatriotes. Je leur demande pardon du fond du cœur.
Alberto Fujimori le résume bien finalement à travers cette phrase. Son personnage divise les Péruviens. Selon un sondage, 60% d'entre eux sont favorables à cette grâce. Mais on a vu aussi bien des manifestations de soutien que d'opposition à ce geste du président Kuczynski. Licelle Quirós Pérez, comment expliquer une telle division? Comment ce personnage d'Alberto Fujimori explique voilà, ces manifestations, autant de soutien que de protestations?
Oui, alors ça c'est... quelque chose qui a à voir finalement avec la période. Hein, il est élu en 1990, au moment où on vivait au Pérou entre 90 et 92, les années les plus sombres hein, de l'histoire contemporaine du Pérou. Justement, comme je le disais il y a quelques instants, un conflit armé hein, qui a fait des milliers de victimes. Et donc, lorsqu'il est arrivé, il a terminé, disons que dans l'histoire péruvienne, hein, le conflit s'est terminé. Il y a eu un moment en fait de reprise économique parce que les années 80, ce sont des années d'une crise très importante. On appelle ça la décennie hein, perdue entre hyperinflation, mais vraiment des taux d'inflation très 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 élevés, une situation vraiment très instable. Et donc en instaurant l'ordre, un peu comme dans le cas du Chili de Pinochet, hein, il y a un certain nombre de la population, un groupe important de la population, qui a vu plutôt une évolution positive hein, en termes justement de stabilité économique. Hein, la croissance a repris, le moteur économique, les indices macroéconomiques ont été plutôt favorables à ce moment-là, hein, parce qu'il a instauré en fait un choc ultra-libéral, hein, vraiment un peu semblable à ce qui s'est passé par exemple en Grèce il y a quelques...
Ça veut dire que ce choc, en tout cas au quotidien pour les Péruviens, était tel qu'ils pouvaient oublier les crimes dont on a parlé, les massacres, ou encore les faits de corruption, vous le disiez, qui était très important à l'époque.
Oui, absolument. Ça a effacé un peu pour ce groupe-là, hein, ces crimes. Ces crimes ont été vus comme une réponse tout à fait légitime de l'État, hein, la violence légitime de l'État, répondre justement à ces groupes terroristes, hein, en tout cas exercer cette autorité. Et donc les crimes commis ont été vus comme, et comme le dit justement Fujimori sur son lit, il reconnaît en fait des excès, des erreurs, mais pas une responsabilité en tant que représentant de l'État, un État justement terroriste. Il assume en fait quelques dégâts collatéraux, disons, de sa politique de remise en ordre du pays.
Et à l'époque, en 1993, le magazine américain Time l'avait même désigné homme sud-américain de l'année. C'est-à-dire qu'on le regarde autrement, 20 ans après, plus de 20 ans après, le regard finalement sur le personnage a changé par rapport à celui qu'on portait sur Alberto Fujimori à l'époque.
Oui, absolument. Il a changé parce que, bon, d'une part, on a découvert, par exemple, en fait, c'est le scandale, le premier, la première fissure vient de scandale de trafic, en fait, de corruption, et de, y compris de trafic de drogue, qui s'élève à des milliers de millions de des millions de dollars, Donc la corruption a été filmée en plus parce qu'il y a eu des vidéos qui montraient très clairement comment le gouvernement c'était un vrai système de corruption. On donnait des valises entières d'argent. Deuxièmement, il est parti après ces scandales financiers. Il est parti au Japon dans une visite d'État et il a profité pour démissionner en fait de son poste depuis le Japon par fax. Donc il a même pas eu le courage. Donc ça aussi atteint son image d'homme public. Et il a même essayé de devenir sénateur, parce qu'en fait, il a la double nationalité, la nationalité péruvienne et japonaise, parce que ses parents étaient nés au Japon. Donc, il a essayé même de devenir sénateur du Japon. Il n'a pas réussi pour obtenir l'immunité parlementaire. Donc, vraiment, des actions
Il aura fallu, 7 ans de bataille juridique pour obtenir son extradition à l'époque donc du Chili, où il était détenu depuis 2005. Le 24 décembre, le président Pedro Pablo Kuczynski annonce donc la grâce d'Alberto Fujimori officiellement pour des raisons de santé. Écoutez.
Je veux vous dire que c'est peut-être la décision la plus difficile de toute ma vie. Comme candidat pendant la campagne électorale, je me suis déclaré opposé à une grâce pour Fujimori, mais aujourd'hui je suis convaincu que nous, démocrates de ce pays, nous ne pouvons pas permettre qu'Alberto Fujimori meure en prison. La justice n'est pas vengeance.
La justicia no es venganza.
Lisselle Quiroz Pérez, on comprend que cette annonce divise autant les Péruviens par le portrait que vous venez de dresser d'Alberto Fujimori, mais l'annonce de Pedro Pablo Kuczynski fait d'autant plus scandale que le maintien en détention de l'ex-président, en fait, faisait partie de ses promesses de campagne.
Oui, absolument, parce qu'il a été élu, Pedro Pablo Kuczynski a été élu, justement, pour contrer la force du fujimorisme, comme vous l'avez signalé. Il y a un soutien populaire certain, important, une société clivée, et Pedro Pablo Kuczynski, PPK, comme on l'appelle au Pérou, eh bien, il a réussi à devenir président de la République parce que il s'est montré comme l'opposition, enfin il s'est positionné à l'opposition de Fujimori, et donc une des promesses était justement de ne pas lui accorder la grâce présidentielle.
Mais dès son arrivée à la présidence, finalement les Fujimori sont devenus aussi ses opposants directs politiques, et qui l'ont menacé. Il était menacé, Pedro Pablo Kuczynski était vraiment sur la sellette. Ses détracteurs parlent donc d'un deal politique à propos de cette grâce. Pour quelle raison?
Oui, parce que donc là, les Fujimoristes, en fait le groupe, le parti de Fujimori, est le groupe le plus important au Parlement. Donc il a, c'était la majorité au Parlement, et la pression était très forte déjà pour lui en termes de poids politique. Et il a été contraint finalement progressivement, donc cette question elle a été à l'ordre du jour dès son arrivée au pouvoir, et progressivement le groupe donc a trouvé une faille, en l'occurrence ce scandale Odebrecht, qui est un scandale de cette entreprise de bâtiments à travaux publics brésilienne, mais qui a vraiment corrompu, exercé aussi la corruption au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, dont le Pérou. Et PPK, Pedro Pablo Kuczynski, Odebrecht a reconnu qu'il avait versé 5 millions de dollars aux entreprises du président du Pérou. Et donc ça a permis en fait aux Fujimoristes de le cerner, en tout cas de faire pression pour qu'il puisse qu'il donne, accorde la grâce.
Est-ce qu'on peut résumer comme cela, les Fujimoristes promettaient une motion, hein, d'ailleurs une motion devait être votée, donc visant à destituer Kuczynski, et finalement ils ont reculé grâce à cette grâce d'Alberto Fujimori. Est-ce que c'est la seule explication possible finalement à ce geste inattendu de Pedro Pablo Kuczynski?
Oui, en fait, il était inattendu en théorie, mais globalement, on savait que, puisque la majorité est une majorité fujimoriste, eh bien, à un moment, on pouvait trouver, il était progressivement fragilisé. Cette fragilisation, ne serait-ce que l'usure du pouvoir, pouvait mener à cela. Et en effet, en l'occurrence, là, c'est ce risque d'être mis en examen pour Pedro Pablo Kuczynski qui a orienté, enfin ou en tout cas a permis cette grâce. Il faut rappeler que le président précédent, Ollanta Humala, est en prison et lui-même emprisonné, justement pour les mêmes raisons. Hein. Il est accusé d'avoir aussi participé à la corruption, et lui et sa femme, Nadine Heredia, sont aujourd'hui reclus. Donc il y a quand même cette épée de Damoclès en fait qui pesait sur PPK et donc qui a un peu conditionné cette grâce.
Une ONG de partie civile n'a pas tardé à annoncer un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, donc après le dépôt de cette grâce, l'annonce de cette grâce présidentielle pour Alberto Fujimori. Réaction également des Nations Unies. Amerigo Incalcaltera est l'un des représentants de l'ONU en charge des droits de l'homme. Il s'était entretenu avec le président Kuczynski avant qu'il ne prenne la décision d'accorder sa grâce à Alberto Fujimori.
Nous avons justement discuté de l'état de santé de Fujimori et nous avons même proposé au président de mettre en place une commission médicale internationale capable d'émettre un avis indépendant. Cette grâce présidentielle est très grave. Le message envoyé, c'est « peu importe ce que tu as commis, il y a pour toi la possibilité d'obtenir l'impunité ». Et cela pourrait avoir un impact sur ce qui se passe dans d'autres pays. Il ne faut pas oublier que les années 70-80 ont été des moments très critique pour tout le continent latino-américain. Des moments pendant lesquels des dictatures utilisaient l'état de droit pour commettre des violations massives des droits de l'homme.
Lisselle Quiros-Pérez, est-ce que le président Kuczynski peut vraiment se relever d'une telle crise politique? Trois de ses ministres ont quitté le gouvernement. Cette décision fait vraiment scandale. C'est comme le disait donc ce chargé de l'ONU, c'est comme effacer finalement tous les crimes d'Alberto Fujimori. Est-ce que vraiment le président Kuczynski peut mener son mandat à terme dans ces conditions?
Il est vraiment très fragilisé, hein, de mon point de vue. Il était déjà au moment de son investiture, puisqu'il avait reçu ses votes, un peu cette confiance des anti-fujimoristes. Donc là, il est vraiment en position de faiblesse. On va voir combien de temps, en fait, peut tenir un gouvernement relativement stable, mais il y a de fortes chances quand même pour le Pérou qu'on entre dans une phase de crise institutionnelle, hein, parce que le président péruvien est très âgé, est aussi 80 ans, il n'a pas un soutien, comme vous l'avez rappelé, hein, des ministres, mais même d'un parti, en fait, d'un parti suffisamment solide. En réalité, la véritable force politique la plus importante est celle des fujimoristes. Donc c'est eux qui tiennent, en plus, comme je le disais, le Parlement. Hein, il y a vraiment une situation extrêmement critique pour lui. Hein.
Un camp fujimoriste qui se retrouve en plus évidemment soutenu par cette grâce elle a été renforcée, c'est un camp renforcé. On regardera donc la suite de l'histoire. Merci beaucoup Lisselle Quiros-Pérez, historienne, maîtresse de conférences à l'université de Rouen. Merci à toute l'équipe de Décryptage, Éléonore Krenik, Arthur Tossou, Gérard Perrault, Anaïs Chikaya et Claude Battista. Décryptage continue sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et évidemment sur RFI.fr. Dans 30 secondes, toute l'actualité africaine.